On va parler de l'ouverture de la COP24 à Katowice avec une opération spéciale sur l'antenne de France Culture comme sur les autres antennes du groupe Radio France. Une opération nommée Agir pour ma planète. Et pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Baptiste Fressoz. Bonjour Jean-Baptiste Fressoz. Vous êtes un historien spécialiste du climat. Vous avez publié des ouvrages importants sur le risque technologique, notamment l'apocalypse joyeuse aux éditions du Seuil. Et puis également un autre livre intitulé « L'événement anthropocène ». Vous allez d'ailleurs nous définir ce que veut dire ce thème. Mais puisque dans la revue de presse internationale, il était question d'un risque technologique avec la naissance de bébés OGM, je mets tout cela entre guillemets, j'aimerais quand même savoir ce que cela vous inspire.
Je découvre la nouvelle avec vous. Je dois dire que ça me fait fortement penser finalement au débat qu'il y avait autour de la vaccination dans les années 1800 avec une stupeur. Un aspect quasiment scandaleux. Et puis, on voit sans doute se mettre en branle ensuite tout un processus de ce que j'ai proposé d'appeler désinhibition, c'est-à-dire on va produire des savoirs, des arguments, des connaissances qui vont nous permettre de rendre plus acceptable le fait accompli technologique. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est toujours dans cette logique du fait accompli technologique. Il y a une innovation, on en parle ensuite, on régule après. Et on n'est pas du tout dans une situation qui était pourtant envisagé par les sociologues, où on serait dans une société plus réflexive, où enfin le progrès serait quelque chose qui est critiqué, discuté, où on prendra en compte le risque, on prendra en compte l'incertitude, etc. Quand on voit ce genre de nouvelles, on voit qu'on est toujours dans une logique où la technologie passe en premier, des produits émergent, des possibilités technologiques émergent, et ensuite il y a de la régulation.
Et aujourd'hui, lorsque vous voyez notre crainte face au réchauffement climatique, avez-vous l'impression qu'il s'agit de quelque chose de nouveau, ou bien au contraire que cela ne fait que réactiver des peurs anciennes, Jean-Baptiste Fressoz?
Alors, il faut dire deux choses. Premièrement, ça réactive effectivement des peurs anciennes, mais ça ne veut pas dire que les craintes qu'on a aujourd'hui ne sont pas extrêmement sérieuses et fondées. Tout au cours du 19e siècle, il y avait un très grand débat sur le changement climatique qui était lié à la rupture du cycle de l'eau. On pensait la Terre comme une création divine, en fait. Et donc, couper les forêts, ça pouvait rompre un cycle providentiel qui assurait la fertilité des zones tempérées. Et la déforestation, c'est un énorme sujet à la fin du 18e, début du 19e siècle. On est à un moment de point bas du couvert forestier en Europe. Et on estime que, en ayant déboisé massivement, on a perturbé le climat. Et ça, déjà, à l'échelle globale. On pense aussi que le changement climatique, c'est un phénomène irréversible. C'est-à-dire, si on coupe des forêts, on change le climat et on empêche même la possibilité de reforester ensuite. Donc, il y avait des vraies craintes tout à fait sérieuses au 18e, début 19e siècle.
Des craintes qui étaient fondées, je veux dire, est-ce qu'il y avait...
Le lien entre déforestation et climat est avéré, c'est-à-dire de fait, quand on coupe des arbres, on change quelque chose dans l'atmosphère. C'est pas exactement le changement climatique contemporain, parce que le changement climatique contemporain est centré sur le CO2. Il y a deux remarques aussi à faire. Premièrement, ces craintes au XVIIIe siècle, elles étaient prises en charge par les sociétés savantes de l'époque, par l'Académie des sciences, par le Parlement en France. Donc, dans ce sens-là, c'était des craintes sérieuses, mais en même temps, on peut pas mettre ça au même niveau que les craintes actuelles, qui sont fondées sur un dispositif scientifique qui a une toute autre ampleur, avec des types de preuves qui n'ont rien à voir avec celle du 18e siècle.
Mais est-ce qu'il y avait déjà une modification importante du climat?
Alors au 18e siècle, en ce qui concerne le CO2, quasiment pas. On est encore dans la normale de l'Holocène en fait. Le CO2 varie.
L'Holocène?
Ah, l'Holocène, pardon, c'est les 11500 dernières années. C'est depuis la dernière glaciation. Et à l'intérieur de ces 11500 dernières années, le CO2 fait des hauts et des bas dans une fourchette de variation qui est relativement restreinte. On ne dépasse pas les 280 parties par million. Et là, avec l'Anthropocène, avec cette nouvelle époque géologique, on sort complètement de cette fourchette de variabilité. On est passé à 400-410 parties par million.
On va reparler de l'anthropocène, mais auparavant, parmi ces craintes liées à la technologie, craintes liées à l'écologie aussi, il y a eu ce week-end une manifestation des Gilets jaunes, Jean-Baptiste Fressoz. Vous qui êtes historien des techniques, lorsque l'on essaye de replacer ce type de lutte, est-ce que d'abord, pour vous, les Gilets jaunes, avec donc la question de la taxation des énergies fossiles et notamment du diesel, est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que vous réussissez également à le replacer dans le temps long qui est votre terrain d'étude?
Alors, il y a plein de choses à dire sur les Gilets jaunes, mais premièrement, je pense que c'est pas d'abord une affaire de climat, c'est une affaire de santé publique. Le diesel, en fait, c'est un peu plus efficace que le moteur thermique classique, que l'essence, pour faire avancer une voiture. Donc, pour le climat, c'est pas forcément néfaste. Ce qui est très néfaste, c'est les 40 000 morts prématurées par an à cause du diesel. Donc, c'est essentiellement un problème urbain, un problème de pollution urbaine.
De particules fines.
Le problème, c'est qu'on, avec l'outil de la taxe, c'est un outil assez frustre, en fait, pour réguler ça. Et donc, ça impacte tout le monde, les ruraux qui auraient plus intérêt à utiliser du diesel et les urbains qui ont intérêt à complètement arrêter le diesel. Donc, ça, c'est la première chose à dire. Deuxième chose à dire, le diesel, c'est intéressant parce que l'inventeur du diesel, c'est un ingénieur allemand qui s'appelle Rudolf Diesel, et il pensait inventer la machine parfaite. La machine qui allait utiliser, qui était déjà beaucoup plus efficace que les moteurs thermiques, sans même penser à la machine à vapeur qui était désastreuse, c'était surtout ça que ça voulait remplacer. Et il voulait aussi faire une machine qui pouvait utiliser des huiles végétales, des matières organiques, avec la grande crainte de l'époque, c'était l'épuisement du charbon. Il voulait aussi décentraliser la production industrielle en disant on va mettre des petits ateliers partout à la campagne parce que par rapport à une machine à vapeur, un moteur diesel c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus facile à utiliser. Et c'est à peu près l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire on a eu de la pollution en ville et puis on a eu la globalisation économique parce que le moteur diesel, il n'est pas tant important pour faire avancer des voitures que pour faire avancer les pétroliers, les vraquiers, les porte-containers. Toute l'infrastructure de la globalisation économique repose sur le diesel. Donc seulement le moteur qui a assuré la concentration industrielle, qui a assuré aussi, enfin, qui a produit la désindustrialisation en France et dans plein de pays industrialisés. Donc seulement le moteur qui a produit finalement les gilets jaunes, mais avec un temps historique.
Est-ce que l'on peut en tirer une morale ?
La morale, je dirais qu'il faut pas faire confiance aux utopies et surtout pas à celles des ingénieurs, quoi. C'est-à-dire quand Rudolf Diesel nous dit voilà, c'est le moteur qui va permettre de faire une société égalitaire où le petit artisan pourra entrer en compétition avec la grande industrie parce qu'il aura un moteur efficace, léger, etc. C'est à peu près l'inverse qui s'est passé finalement.
Et ces gilets jaunes, alors comment les interpréter dans ce contexte?
Alors les gilets jaunes, je pense qu'il faudrait le déconnecter ça de la question des carburants, parce que si le carburant a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, comme tout le monde le dit, si on regarde dans les budgets des classes populaires, c'est pas ça la chose essentielle. Je veux dire, pourquoi ne pas râler contre l'augmentation de plein d'autres taxes ou d'autres prix? Donc, je sais pas, par exemple, les péages aux autoroutes, qui sont extraordinairement chers, qui impactent les automobilistes, et on râle pas contre ça. Donc je pense qu'il y a quand même un aspect, révolte fiscale et critique de l'État qui me semble problématique dans ce sens-là.
Et lorsque l'on prend cette fois-ci le sujet plus vaste de l'anthropocène, puisque tout à l'heure vous avez prononcé ce mot, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé et qui mérite une définition, Jean-Baptiste Fressoz.
Alors l'anthropocène, je vous ai déjà expliqué que c'était que l'Holocène, c'est les 11 500 dernières années depuis la dernière glaciation. L'anthropocène, c'est une proposition géologique, qui vient donc de scientifiques, de dire on est rentré dans une nouvelle époque qui est marquée par la prédominance de l'homme, des activités de l'homme sur les grands paramètres du système Terre, sur les grands équilibres de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, alors le CO2 c'est le plus connu, mais en gros, à travers les émissions de CO2, on prend contrôle finalement du système Terre, de la même manière qu'on a complètement modifié le cycle du phosphore, ainsi que de l'azote pour les engrais. Les engrais, la production synthétique d'engrais, ça mobilise des flux d'azote qui sont bien supérieurs aux flux naturels qui existent dans la biosphère de flux d'azote. Donc l'anthropocène, c'est vraiment dire on rentre dans quelque chose de nouveau. Et la chose qui est forte, c'est finalement de bien faire comprendre que pour trouver des choses qui agissent avec autant de force sur la planète que nous-mêmes, il faut considérer l'histoire de la Terre quasiment dans son entier. Il faut considérer l'histoire de la Terre au temps géologique. Si je vous dis le CO2 est passé de 280 parties par million à 400 parties par million, tout le monde s'endort. Si je vous dis le CO2 n'a jamais été aussi élevé depuis 2 millions d'années, on comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose de très important sur la Terre. Si je vous dis que la rapidité d'extinction des espèces est aussi importante qu'il y a 65 millions d'années, on a tous en tête la météorite, la fin des dinosaures, etc. On comprend qu'on agit de manière extraordinaire sur la planète et que ce qu'on vit, c'est pas simplement une crise environnementale, quelque chose qui a une durée relativement courte, et puis il y a l'idée qu'on va sortir de la crise, mais qu'on a enclenché une nouvelle époque géologique et donc ça va durer en fait très 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 longtemps.
Donc ce terme d'anthropocène, il est utile?
Je pense qu'il, c'est pas à moi de juger, mais en gros, il a une force symbolique très très puissante et il a convaincu plein de monde et c'est un grand succès. Donc après, il a tout plein de problèmes.
Lesquels?
Alors je peux vous les détailler, mais en gros, anthropocène, on a l'impression que c'est l'espèce humaine qui est collectivement responsable de la crise environnementale. Anthropos, c'est l'homme en grec. Or, je vais pas donner trop de chiffres, mais en gros, si la démographie a quelque chose à voir dans la crise environnementale, c'est évidemment pas le facteur principal. On passe de 1 à 7 milliards d'individus entre 1800 et 2000. la quantité d'énergie multipliée par 50 et la quantité de capital, si on prend les chiffres de Thomas Piketty, par 134. Donc il y a tout plein d'autres grandeurs qui croissent beaucoup plus vite que la population humaine et qui ont sans doute un facteur explicatif beaucoup plus important un poids explicatif plus important que la démographie.
C'est-à-dire que si je vous ai bien lu Jean-Baptiste Fressoz, vous considérez que l'une des clés de la question écologique, elle est à chercher dans le capitalisme.
Alors donc ce qu'on a proposé avec Christophe Bonneuil dans ce livre, c'est multiplier les récits sur l'anthropocène, ne pas dire que on a un grand récit naturaliste de dire c'est l'espèce humaine versus le système Terre, et on pourrait faire tout plein d'autres récits. Par exemple, si on regarde simplement les émissions de CO2 entre 1750 et 1950, 65% des émissions, c'est simplement l'Angleterre et les États-Unis. Il faut attendre la fin des années 70 pour que les émissions de toute la planète dépasse celle de simplement deux pays. Mmh. Donc en termes simplement historiques, anglo-saine aurait été sans doute plus rigoureux. De même, si on prend les militaires, le rôle des technologies militaires dans l'anthropocène est absolument déterminant. Toutes les techniques les plus dégueulasses que vous connaissez, elles viennent toutes systématiquement de l'armée.
Donnez-nous des exemples.
L'aviation civile telle qu'on la connaît, elle ne peut pas exister sans la Seconde Guerre mondiale. Le développement de l'aluminium, le développement des carburants d'aviation, le développement des turbines, des réacteurs, etc. Tout ça, c'est lié à la Seconde Guerre mondiale. Le fait même que le carburant ne soit pas taxé, c'est un traité international de 1944 qui est décidé en grande partie par les États-Unis parce qu'ils ont le monopole de ces technologies-là quasiment. Et donc ils veulent développer au maximum l'aviation civile. Si vous prenez, je ne sais pas, la pêche par exemple, ça peut sembler assez loin de la Seconde Guerre mondiale, mais le nylon qui sert à faire les filets de pêche, c'est une technologie qui sert d'abord à faire des parachutes. Les sonars, ça sert d'abord à chasser des sous-marins avant de récupérer des poissons. Pareil pour le GPS, c'est une technologie de la guerre froide en fait. Les pesticides, ça vient des gaz de combat au départ, etc., etc., etc. Les engrais azotés dont je vous ai déjà parlé, ça sert d'abord à faire des explosifs. Donc, Thanatocène aurait sans doute aussi été une possibilité intéressante. Et en fait, c'est l'interaction entre la guerre et le capitalisme qui a été absolument moteur dans cette affaire d'anthropocène.
Aujourd'hui, il est essentiellement question de transition énergétique. Est-ce que c'est un terme qui vous paraît approprié à vous, Jean-Baptiste Fressoz, qui êtes historien de la technologie et des crises énergétiques?
Alors, ce qui me frappe, c'est à quel point ce mot-là a rencontré une sorte d'adhésion naturelle, de succès. Il faut faire une transition énergétique. Mais quand on regarde dans l'histoire, deux constats s'imposent. Premièrement, historiquement, il n'y a jamais eu, au niveau global, de transition énergétique. Donc ça veut dire que ce qu'il faut qu'on fasse n'a absolument aucun précédent dans l'histoire. Donc c'est pas simplement, c'est de dire on va pas mettre 3-4 éoliennes, ou même quelques millions d'éoliennes et des panneaux solaires, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Ce qu'on a fait pour l'instant avec les renouvelables, c'est ajouter une petite couche de renouvelables sur un mix énergétique qui reste à 85% fossile. Charbon, pétrole, gaz, c'est ça le point essentiel.
Auparavant, quand par exemple l'humanité a décidé de se passer, ou en tout cas d'utiliser le bois de manière minoritaire, alors qu'auparavant c'était un mode majoritaire. Mmh. En fait, est-ce que ça n'est pas une transition énergétique?
Non, parce qu'en fait, l'usage énergétique du bois continue tout au long du 19e siècle, et on rajoute dessus du charbon. En fait, c'est ça qui se passe. En gros, si vous prenez, par exemple, la sidérurgie, qui est la chose la plus, où le charbon est le plus utile, c'est dans les années 1870 seulement qu'en France, le charbon domine le bois. En Suède, ça sera au 20e siècle. Donc, le bois reste très très important comme source d'énergie tout au long du 19e siècle. La révolution industrielle, c'est en fait quelque chose qui s'est fait fondamentalement sur les énergies renouvelables, en fait, sur le bois, l'énergie organique, les muscles, l'éolien déjà, le solaire aussi plus tard au 20e siècle était important. Donc on a vraiment une histoire de l'énergie qui est trompeuse, où on pense qu'on passe de système énergétique à un autre alors qu'on ne fait qu'additionner des sources d'énergie les unes sur les autres. Le point que je trouve assez intéressant, c'est de voir d'où vient ce mot transition énergétique. Alors désolé, c'est un souci un peu d'historien, mais ça vient de l'anglais, ça vient de Energy Transition, ce qu'on a traduit ensuite en français, et ça vient dans les années, en 75, ça émerge pour contrer un autre terme qui était Energy Crisis, la crise énergétique, qui vraiment produit une angoisse très forte parmi les élites américaines et parmi la population américaine. Il y a vraiment des angoisses extraordinaires sur le fait qu'on va courir, qu'on n'aura plus de pétrole après les chocs pétroliers des années 70. Et Energy Transition, c'est dire finalement c'est gérable, quoi. On va faire une transition énergétique. Et qu'est-ce que ça désigne au départ? Ça désigne avant tout le nucléaire. Et d'ailleurs le terme Energy Transition, c'est un terme de physique nucléaire. Ça désigne le charbon. Ça désigne le gaz de schiste et le pétrole de schiste déjà. Donc en fait, c'est pas du tout un truc écolo au départ, la transition énergétique. C'est au contraire quelque chose qui sert à contourner les angoisses, qui sert à contourner les luttes aussi sur ces questions d'énergie.
Mais alors justement, est-ce que l'on a véritablement changé de système? Est-ce que cette transition énergétique dont vous récusez l'essence, la notion, Jean-Baptiste Fressoz, est-ce que justement ça n'est pas aussi une manière de mieux accommoder le capitalisme avec les enjeux qui sont aujourd'hui les enjeux du réchauffement climatique?
Bah sans doute, c'est-à-dire dans l'usage actuel du terme, c'est exactement ça. Après une vraie transition énergétique, ça pourrait être quelque chose de très profond, une transformation très. Eh ben, en gros, on a 85% de l'énergie au niveau global qui vient du charbon, du gaz et du pétrole. Si on supprime 85% de l'énergie, c'est ça qu'il faut faire concrètement. C'est un autre système économique. Il faut. Je venais de vous dire que le diesel était le moteur essentiel de la globalisation. Si on voulait être sérieux, c'est de ça dont qu'il faudrait parler en fait. Effectivement.
Et si on décidait, par exemple. De remplacer ce moteur diesel par un moteur électrique, ce qui serait techniquement difficilement envisageable dans certaines applications, mais bon, et partons de ce postulat-là, il resterait la question de la production de l'énergie et laisser uniquement au nucléaire la production de cette énergie, quelles pourraient être les conséquences?
De toute manière, le nucléaire, en ce moment, au niveau global, c'est 5-6% de l'énergie, donc c'est vraiment rien du tout. Le nucléaire, ça semble important en France, mais au niveau global, c'est une énergie qui n'a absolument aucune importance. En termes, pour une histoire technique, le nucléaire, c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas étudier. Il vaut mieux étudier le charbon 20e siècle, qui est infiniment plus important que le nucléaire. D'accord? En ce moment, l'énergie qui vraiment se développe très fortement, surtout en Asie, c'est le charbon. C'est une technologie du 19e siècle, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire on ne vit pas dans un monde où c'est le nucléaire, le renouvelable, etc. Non, on vit dans un monde énergétique où ce sont les fossiles qui définissent vraiment les grandes structures productives.
D'ailleurs, les banques n'ont jamais financé autant d'énergie fossile.
Voilà, les deux tiers des investissements, et même plus, vont d'abord dans des énergies fossiles et le reste dans des énergies renouvelables.
Ce qui est du coup assez étonnant, parce que ça signifierait que le mouvement du capitalisme est à peu près contraire de celui qu'on prétend qu'il aurait.
Bah, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le mouvement du capitalisme, en tout cas, c'est
pour le financement des banques.
Oui, tout à fait. Non, bien sûr, vous avez raison. En gros, ce qui se passe, c'est que en Chine, on a eu une explosion de charbon. Les efforts de réduire les émissions de CO2 liées au charbon, déjà, ne réussissent pas trop. Et puis, tous ces techniques, tous ces ingénieurs, tous ces brevets, etc., il faut bien les utiliser. On ne va pas les supprimer d'un coup. Et donc, les entreprises chinoises, maintenant, deviennent le fer de lance d'un développement du charbon dans tout le reste de l'Asie, au Pakistan, au Vietnam. Il y a des articles passionnants là-dessus récemment, où il y a plus de 1200 projets de centrales au charbon qui sont soit à l'étude, soit en train de se faire. Donc on est en fait dans une phase d'explosion du charbon en ce moment. C'est ça qui est assez dramatique.
Ça veut dire qu'il faut repolitiser la question environnementale?
Ça veut dire qu'il faut regarder le monde tel qu'il est et qu'il faut pas se gargariser de mots creux, genre transition énergétique, etc. Il faut vraiment parler du monde productif, du système international. Et c'est ça qui, un peu, à mon avis, qui explique un peu l'échec des COP, c'est que ils se centrent sur la question de la pollution du CO2 une fois que c'est déjà émis, en quelque sorte. La question, c'est comment on va se répartir ces émissions-là, quel marché on va mettre en place pour que le système fonctionne bien, etc. Et on parle pas finalement des modes de production, du commerce international. C'est ce genre de sujets en fait qui sont au cœur du changement climatique.
Mais alors les COP précédentes, elles se sont trompées de bonne foi, entre guillemets?
Non, mais je dis pas qu'elles sont trompées, mais c'est-à-dire de fait ça pouvait pas marcher. C'est plutôt ça, c'est-à-dire c'est des choses qui sont sur des intentions déjà, c'est uniquement de la bonne volonté des États. Et donc de fait, ces États-là ont intérêt à continuer leur développement économique.
On va continuer à évoquer la COP 24 avec ces matins qui sont consacrés à ce thème comme l'ensemble des antennes du groupe Radio France avec sur France Culture des émissions particulières dans les chemins de la connaissance et puis également dans la série documentaire. Et je recommande vivement aux auditeurs votre livre Jean-Baptiste Fressoz, L'Apocalypse Joyeuse, une histoire du risque technologique. C'est aux éditions du Seuil. J'y ai appris plein de choses sur l'évolution des techniques et la supposée technophobie. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Rob Hopkins. Il a systématisé et théorisé la notion de ville en transition. Vous allez l'entendre, il a mené à bien différentes expériences dans le domaine de l'abandon des énergies fossiles. En attendant, il est 8h sur France Culture.
Les matins de France Culture, Guillaume Herner.
Bonjour Rob Hopkins, vous êtes un peu dissipé ce matin, vous êtes fondateur du réseau des villes en transition, vous êtes une grande star internationale, merci d'être ici ce matin. Les villes en transition, c'est un réseau de plus de 2000 initiatives dans le monde, 50 pays, 150 initiatives de ce type en France, réunies donc dans un réseau international. Et tout d'abord, Rob Hopkins, il faut nous expliquer ce qu'est une ville en transition.
So a well, it can be a transition city, it can be a transition town.
Il peut s'agir d'un village ou d'une grande ville.
It could be a transition university.
Il peut s'agir d'une université, d'une entreprise. Et là, la liste n'est pas exhaustive. Le phénomène de transition signifie qu'il s'agit d'un lieu qui rêve de répondre aux défis du présent de manière imaginative. C'est un réseau de communautés qui réimagine et reconstruisent le monde. Ainsi, si l'on regarde les faits du changement climatique, il est clair que nous devons réduire nos émissions de l'ordre de 80% dans les 20 ou 30 années à venir. Mais à quoi ça va ressembler, ce changement? Quelles sont les occasions qu'il faut saisir dans cette obligation de changement? Nous devons bâtir des économies locales plus résilientes, plus intéressantes, plus diverses, et il y a tant d'opportunités qui se présentent pour les entreprises, pour les nouvelles relations de travail. Si vous visitez un groupe de transition, vous verrez qu'on crée, par exemple, une nouvelle communauté d'éducation ou alors de nouvelles activités d'alimentation. En Belgique, par exemple, il y a des réseaux qui travaillent sur la façon dont on peut recréer des réseaux.
Alors, un élément sur votre trajet à vous, Rob Hopkins. Vous avez débuté en étant enseignant en permaculture. Expliquez-nous ce que votre expérience en permaculture, et d'ailleurs le terme mériterait d'être défini, vous a permis d'appliquer dans ce réseau des villes en transition.
For me, permaculture was a... Learning about permaculture rewired my brain.
Mon apprentissage de la permaculture a permis de recâbler mon cerveau en quelque sorte. C'est formidable la permaculture parce que ça me permet de voir le monde différemment. On voit ce qui est possible. Lorsque l'on regarde le monde, on se dit tiens, on va faire ça, on va relier ceci à cela. À partir de la nature, on peut relier les choses entre elles. Donc, vous avez par exemple une école à un endroit A. En endroit B, vous avez des chômeurs, puis ensuite, vous avez une entreprise agroalimentaire. Comment relier? Bon, alors à l'heure actuelle, on a le pétrole, qui est relativement abordable, et qui fait qu'on n'a pas très bien relié les choses entre elles. Avec la permaculture, en revanche, on peut concevoir des systèmes qui ne nécessitent pas beaucoup d'énergie, mais qui sont beaucoup plus créatifs. Et en tout cas, on s'amuse bien. Il s'agit de trouver des solutions, et moi, je dois dire que ça me donne beaucoup d'énergie, la permaculture.
Donnez-nous des exemples.
Par exemple, à Liège, en Belgique. Je l'ai évoqué. À Liège, on a lancé le phénomène de transition il y a environ 6 ans. Il y a 4 ans, ils ont lancé un projet qui s'appelle la ceinture alimentaire. Et donc, on a posé la question, et si on faisait ceci? Dans une génération, si la majorité des aliments à Liège venaient de circuits courts autour de Liège, il y a 4 ans, ils m'ont invité, ils ont invité des agriculteurs, des chefs, des universitaires, tous les gens intéressés sont venus à cette manifestation et je suis revenu à Liège il y a 8 mois. Ils ont mis en place des coopératives, une brasserie, un système de livraison par vélo. Donc tout ça, ça prend de l'ampleur. J'ai rencontré le maire de Liège qui m'a dit, eh ben voilà, c'est ça l'histoire de Liège. Il y a 8 ans, on voulait être une ville smart, maintenant on veut être une ville en transition. 5 millions d'euros ont été levés localement pour financer ces projets. C'est vraiment une très forte source d'inspiration. Et c'est formidable de voir ce qui se passe lorsqu'une ville se réinvente. Mais ça a commencé par la base, les gens comme vous et moi, les gens qui ont décidé qu'il fallait changer les choses.
J'ai lu que vous aviez eu un séjour dans un monastère bouddhique en Italie. Est-ce que votre rencontre avec le bouddhisme a été déterminante? Et surtout, est-ce que le fait de mettre en place ces villes en transition, derrière ça, est-ce qu'il y a une spiritualité, Rob Hopkins?
I don't think so.
Non, je n'irai pas jusque-là. À mon avis, il s'agit d'une activité. Ah, pour moi. Pour moi, la transition, c'est une pratique incontournable. Et il s'agit de compassion. Prenons le dérèglement climatique. C'est effrayant. C'est de très grande ampleur. Donc, soit on peut réagir en disant nous devons trouver des solutions pour tout le monde, donc avec une réponse de compassion envers les autres, ou alors on peut se dire moi je vais vivre dans le Nebraska, ou alors dans les montagnes avec 4 années de réserve de papier toilette et de haricots. Vous voyez, pas une bonne solution. Donc, pour moi, la transition, c'est une histoire de de compassion. Nous devons être bons les uns envers les autres. Nous devons, au contraire de nous isoler, nous devons tisser des liens entre nous.
Bon, mais ça, c'est un mot qui est souvent employé dans le bouddhisme. Le mot de compassion.
Absolutely, but I'm not saying that you have to be Buddhist.
Mais je dis pas qu'il faut être bouddhiste pour mener des projets de transition. La transition, c'est pas du tout bouddhiste, et l'inverse n'est pas vrai non plus. Donc il y a des groupes de transition dans des communautés musulmanes, chrétiennes, et ainsi de suite.
En tout cas, votre expérience et votre envie de développer ces villes en transition, elle est partie d'un constat autour du pic de pétrole. C'est cela, en fait, qui a été, en quelque sorte, le déclencheur de tout ce mouvement. Pourquoi, expliquez-nous, dans quel contexte, Rob Hopkins, vous en êtes venu à penser cela?
Lorsqu'on a lancé la transition en 2005-2006, nous étions fort préoccupés par des chiffres qui nous montraient que nous allions atteindre le pic du pétrole. Et nous étions très motivés par le dérèglement climatique et les faits consternants qu'on nous avait livrés. Le dérèglement climatique a pris le dessus comme catalyseur de nos efforts, parce que l'argument ne porte pas tellement sur le pic de pétrole, mais 80% des carburants fossiles du monde doivent rester dans le sol. Notre survie dépend de cela. Les carburants fossiles doivent rester sous terre. Et c'est ça qui motive la transition plus que tout aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, la transition, on la trouve dans des milliers de communautés dans 50 pays. Nous aimons nous rendre dans les communautés pour demander aux gens pourquoi ils le font. Moi, je sais pourquoi je le fais, parce que je suis motivé par le dérèglement climatique. Je suis motivé par différents facteurs. Mais vous, qui menez cette transition, pourquoi le faites-vous? Voilà. Nous posons cette question parce que, ainsi, nous donnons de l'énergie les uns aux autres, et ça nous permet d'avoir de l'espoir, de tisser des liens les uns avec les autres, et ça nous donne l'impression de faire partie d'une solution qui est mise en œuvre, parce que, puis aussi, c'est très chouette de se rassembler et de s'amuser ensemble.
En France, il y a actuellement un mouvement, les Gilets jaunes, Rob Hopkins, et ce mouvement, il est très polymorphe, mais il a débuté sur une question très précise qui est l'augmentation des prix du diesel. Comment vous traiteriez pratiquement cette question ?
On assiste à des mouvements similaires ailleurs dans le monde. À mon sens, nous devons prendre conscience que si on augmente le prix du carburant, ça a eu un retentissement sur la vie des gens qui n'ont pas des moyens illimités. Mais, en parallèle, nous devons absolument nous éloigner des carburants fossiles parce qu'ils vont nous détruire, ces carburants fossiles. Par conséquent, il s'agit beaucoup des récits que nous pouvons partager et de l'avenir que nous pouvons bâtir ensemble. Au Royaume-Uni, il y a le phénomène du Brexit. Bon, là, il s'agit de gens qui se sentaient délaissés, ignorés. Donc, ainsi, là aussi, il faut faire une transition en tissant des liens et sans s'ignorer. Mais l'ère des carburants fossiles doit être derrière nous. C'est fini d'ailleurs. Mais les autres solutions doivent aller plus vite pour être mises en œuvre.
Alors qu'est-ce que vous préconisez justement? Parce qu'on dit par exemple la voiture électrique, c'est embêtant parce qu'il y a des batteries et puis c'est très cher.
Il nous faut des transports publics de bien meilleure qualité partout dans le monde. Il nous faut... S'agissant de l'avenir, moi, je tourne beaucoup vers Barcelone. À Barcelone, on a réimaginé comment la démocratie fonctionne. À Barcelone, il y a un système de gouvernance municipale selon lequel il y a des conseils de quartier qui font des recommandations à l'administration municipale. Et à Barcelone, ils ont créé une société d'énergie qui est en régime municipal à 100%. Ils ont remunicipalisé l'eau, donc les gens ont repris possession des biens partagés. C'est ça l'avenir. Il faut que les gens s'approprient ce qui leur appartient. Au Royaume-Uni, lorsqu'on a dit « Ah, le Brexit, ça nous permet de reprendre le pouvoir » et ainsi de suite, le résultat, c'est que c'est les gens très riches à droite qui ont repris le pouvoir. C'est ça, conséquence immédiate du Brexit. Il nous faut, à contrario, une réappropriation des choses par tout le monde, y compris les gens les plus défavorisés. Il faut que les gens puissent investir leur argent localement pour opérer le changement. C'est ça, la réappropriation. Donc, c'est une opportunité de réimaginer la politique, la démocratie en se faisant.
Mais alors, justement, parce que vous évoquez le Brexit, on pourrait également évoquer Donald Trump. On a l'impression qu'il y a un certain nombre de forces politiques qui ne sont pas nécessairement en phase avec ce mouvement que vous incarnez, Rob Hopkins, celui des villes en transition vers des villes moins énergivores en énergie fossile. Comment vous jugez ces mouvements? Qu'est-ce qu'ils signifient pour vous?
Il est important de comprendre que la transition, c'est une technique, un outil que nous avons mis au point pour travailler à l'échelle des quartiers, des communautés. La transition, c'est ni de gauche, ni de droite. Non, la transition nécessite la participation de tous dans la communauté. Moi, dans ma ville, Totnes, dans le Devon, je travaille avec des gens de gauche, des gens de droite, mais nous travaillons ensemble pour bâtir un projet qui consiste à apporter des logements, de l'alimentation, de l'énergie pour la communauté locale. Donc, lorsque l'on travaille à l'échelle d'un quartier, si l'on dit « ça c'est de gauche » ou « ça c'est de droite », à ce moment-là, il y a plein de gens qui vont être réticents. Donc, il ne faut pas se lancer dans un discours politique comme ça. Il faut couvrir l'ensemble du spectre pour impliquer tout le monde. Mais en même temps, avec l'avènement du populisme, là, on se rend compte que les gens sont en train de perdre espoir. Ils se sentent abandonnés. Mais si on a une démarche envers le développement économique qui consiste à garder l'argent localement, les biens localement, les gens pourront se réapproprier la création de leur avenir. Par ailleurs, moi je sens qu'à notre époque, l'imagination est fondamentale. J'écris actuellement un livre sur l'imagination. Et notre imagination doit être déployée. Le dérèglement climatique, c'est l'échec de l'imagination. Alors que notre imagination, nous devons l'exploiter pour avancer. Donc il faut se pencher sur l'éducation et le système politique grâce à nos imaginations.
Je ne veux pas vous embêter là-dessus. J'imagine bien que dans les villes en transition, Rob Hopkins, tout le monde travaille de conserve, mais et voyez bien que, par exemple, si l'on prend les Républicains aux États-Unis, j'imagine que c'est une idée qui est difficile à leur faire accepter. En tout cas, aujourd'hui, je parle des Républicains qui sont influencés par Donald Trump. Quels sont les arguments que vous utiliseriez si vous deviez discuter avec eux?
Quand je parle de transition à des conservateurs en Angleterre, un peu l'équivalent des Républicains aux États-Unis, eh bien, je leur dis ceci. Je leur parle d'entreprises, des opportunités qu'il y a à créer une nouvelle économie locale. Je tiens des propos sur l'histoire, l'importance du patrimoine, de l'héritage. J'explique aux gens qu'ils aiment leur communauté. Par conséquent, il faut toucher du doigt ce qui leur plaît, ce qui les intéresse. Mais c'est vrai que la montée du populisme de Donald Trump et tout ça, ça fait peur. J'en conviens. Et ça, peu de pays en Europe sont épargnés. J'ai pas de solution magique pour résoudre ce problème. Il s'agit de quelque chose d'assez effrayant à notre époque. Et on voit que les faits scientifiques sont rejetés et les arguments, aussi sensés soient-ils, sont souvent ignorés. Donc, je n'ai pas de solution magique. Mais lorsque je regarde les gens en Angleterre qui ont dit « nous devons reprendre le pouvoir, le contrôle des choses, de notre destin » et suite, certes, j'entends ce message, mais il s'agit, en ce faisant, de bâtir plus de démocratie à l'aune des faits scientifiques qui nous montrent qu'il y a bel et bien un dérèglement climatique qui constitue une énorme préoccupation, urgente. Mais je ne suis pas là pour dire que les choses sont faciles.
Alors à Totnes, c'est comme ça qu'on dit Xavier Combes traduit l'entreprise.
Totnes.
Voilà, vous le dites évidemment mieux que moi. À Totnes, la ville où vous habitez, Rob Hopkins, vous avez mis en place un certain nombre de choses dans le cadre de la transition. Et alors, y compris une monnaie locale. Pourquoi une monnaie locale?
So local money is a strategy. There are many, many local.
La monnaie locale, c'est une stratégie. Il y en a de nombreuses monnaies locales ici en France. Vraisemblablement plus qu'en Angleterre, d'ailleurs. L'idée est la suivante. Dans le phénomène de transition, on se penche sur l'économie locale. Donc, village, ville, et on considère que c'est un seau. Dans ce seau, il arrive de l'argent, des retraites, l'argent du secteur public, et ainsi de suite. Et à l'heure actuelle, ces paniers sont percés. Il y a des Amazon ou tout un tas d'entreprises comme ça qui prennent cet argent. Et l'économie locale n'est plus si locale que ça. Et nous essayons de boucher ces trous qu'il y a dans le panier, parce que cela a une incidence négative sur la vie des gens à l'échelle locale. Donc, cette monnaie locale, c'est en fait des espèces de pansements qui bouchent les trous, qui permet à l'économie locale d'être autonome. Donc, on garde l'économie, l'activité économique sur place. Si vous prenez la livre de Bristol, la ville de Bristol, c'est vraisemblablement le cas d'école. Donc, il est écrit sur les billets de la monnaie locale, nous efforçons de garder la monnaie loin des îles Caïmans depuis 2012. Et c'est un outil formidable. Et puis, ils se sont dit, pourquoi ne pas imprimer nous-mêmes nos propres billets? Nous, à Totnes, on s'est dit, bon, on va faire des billets de 10, de 20, et ainsi de suite. Et quelqu'un a dit, mais on va faire un billet de 21 livres, pourquoi pas? Eh bien oui, donc du coup, on a un billet de 21, nous, à Totnes.
Il y a une autre question qui se pose toujours à Totnes, c'est la question de la relocalisation des activités, des matériaux. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel vous avez particulièrement travaillé.
For me, that's the economic model of the future.
Oui, c'est du reste le modèle économique de l'avenir, à mon avis. Comment nous assurer qu'il y a autant d'argent que possible localement? Il y a une ville qui s'appelle Preston, dans le nord de l'Angleterre. C'est une ville où il y a beaucoup de difficultés. Et là, on réimagine l'économie en essayant de préserver l'argent le plus localement possible. Donc, il a été créé des coopératives, des centres de soins, des centres d'éducation. Et donc, il y a des circuits courts d'alimentation. Lorsqu'il y a un contrat pour des projets de bâtiments, plutôt que d'avoir une grande entreprise qui s'occupe de toute la maîtrise d'œuvre, on délègue le travail à une multitude de petites entreprises locales, parce que notre avenir économique doit reposer sur un système qui permette de garder la richesse, l'argent, localement.
Alors, j'ai parlé de cette ville anglaise, Totnes, mais il y a par exemple une ville en France, Ungersheim. J'espère que je prononce bien ce mot, Xavier.
Ungersheim.
Voilà, une ville à 15 km de Mulhouse, qui elle est aussi une ville en transition. Qu'est-ce que l'on peut observer à Ungersheim aujourd'hui, Rob Hopkins?
Ungersheim, c'est une ville incroyable.
They have a mayor there called Jean-Claude Mensch.
Jean-Claude Mensch, en est le maire. En 2011, il a vu un film sur le mouvement des transitions. Il a dit, tiens, on va faire ça nous aussi. On va tout faire, nous, Ungersheim. Ils ont créé 21 projets pour le 21e siècle. La plupart de ces projets sont en place, d'ailleurs. Ils ont lancé des projets d'énergie renouvelable. Ils ont créé un champ d'éoliennes de 3,5 mégawatts. Ils ont créé des projets alimentaires locaux, l'alimentation, les cantines scolaires. Tout cela, c'est local. Ils ont un potager de 5 hectares. Ils ont la monnaie locale. Ils bâtissent de nouveaux bâtiments avec des matériaux écologiques. Ils ont des projets de logement. Moi, quand je vais à Ungersheim, je trouve ça génial parce qu'ils ont des projets vraiment formidables et ça marche. Mais à Ungersheim, on commence à voir ce que sera cette nouvelle économie étant donné les réseaux qui sont bâtis, étant donné les relations qui sont tissées. L'école est liée au potager, l'argent reste localement, les transports sont locaux, toutes les activités sont locales. Ce qu'il faut maintenant, c'est donner aux gens l'expérience de ce que sera l'avenir. Lorsque le gouvernement vous dit qu'il faut réduire les émissions émissions de carbone de 80% d'ici 2030. Ça ne vous dit rien sur ce que sera l'avenir. Au contraire, il faut regarder les choses de manière locale. Il faut des récits, il faut des cas concrets pour vivre cela, pour toucher du doigt ce à quoi ça ressemble. Quand on va à Ungersheim, on peut se promener et on peut voir exactement ce que sera l'économie de demain. Et on dépense moins d'argent.
Comment ça se fait?
Parce qu'on crée des emplois.
Vous parlez justement de beaucoup d'investissements.
Pas tant que ça. Invitez donc le maire d'Ungersheim, Jean-Claude Manchin, un garçon charmant et qui explique très bien les choses. En réalité, les dépenses publiques sont moindres. Et il a été créé une démarche économique locale qui est une véritable source d'inspiration. C'est très, très stimulant. Il ne s'agit pas de dépenser plus d'argent. Non, il s'agit de dépenser la même somme, voire un petit peu moins, mais de manière plus raisonnable, plus logique, plus locale. Et donc, les retentissements locaux sont énormes, alors qu'en réalité, l'argent ne fuit pas vers ailleurs. Donc, on peut donner un contrat à de grandes entreprises pour s'occuper de l'alimentation des cantines, ou alors on peut faire travailler les petits maraîchers autour de la ville, par exemple, et ça permet de vraiment dynamiser les choses.
Comment vous faites pour mettre en place justement des initiatives citoyennes? Parce que on n'arrête pas de dire, Rob Hopkins, que c'est particulièrement compliqué de faire travailler les gens ensemble. Surtout, les faire travailler dans un registre qui, précisément, n'est pas leur travail. C'est-à-dire que c'est en tant que citoyens qui vont se mettre les uns aux côtés des autres pour œuvrer dans ce sens.
I think they have to be inspired.
Ah bah, il faut des sources d'inspiration. Regardez le film Demain de Cyril Dion. Film extraordinaire. Il y a des centaines de milliers de gens qui ont vu ce film et qui se sont dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va se retrousser les manches. Alors que quand on regarde les choses à la télé, on ne se dit pas, tiens, je vais me lever du canapé puis je vais bouger. Non, pas vraiment. Donc il faut que les gens puissent entendre des messages stimulants. Pour moi, le modèle de transition, ça donne les outils faciles pour démarrer. Faites une fête avec les voisins. Invitez le plus de gens possible. Faites ça dans la rue. C'est comme ça qu'on se lance. On travaille, on échange, on partage des idées. C'est ça qui est formidable dans la transition. Ça démarre avec les passions des gens, les préoccupations des gens. Si vous intéressez à l'alimentation, eh ben, demandez à vos voisins ou les gens du quartier de travailler avec vous pour mettre en place un projet, même à toute petite échelle. Commencez à l'échelle toute petite dans votre quartier. Mais ce sont ces petites manifestations, ces tout petits projets qui peuvent changer les choses. Si on peut changer les choses à ce coin de rue-là, eh ben on va aller de l'autre côté de la rue aussi. Et puis, petit à petit, le quartier s'agrandit, il y a de plus en plus de pouvoir, les gens s'approprient les choses. Donc, la transition, c'est un modèle qui donne les outils aux gens pour qu'ils démarrent les choses, même à petite échelle.
Bon, mais tout n'est pas aussi consensuel que ça. Il y a beaucoup de débats, j'imagine, qui se posent. Alors, par exemple, vous parlez de nourriture. L'une des questions qui se posent et qui est particulièrement polémique, c'est la question donc de la viande. Et est-ce que vous considérez, par exemple, qu'il faut abandonner la viande dans ce type de projet? Qu'est-ce que vous préconisez?
Les questions les plus difficiles viennent à la fin. D'accord, les plus controversées, du moins.
I haven't eaten meat since I was 14.
Moi, je ne mange plus de viande depuis l'âge de 14 ans, personnellement.
Punk made me vegetarian when I was 14.
J'étais punk et végétarien. Hein.
Quel est le rapport entre les punks et les végétariens?
There was a very strong culture of
chez les punks qui consistait à être végétarien. Hein. À mon époque, du moins. Hein. Bon. Bref. Donc, moi, je suis la preuve que si on arrête de manger de la viande, ça ne vous empêche pas de grandir, parce que je suis assez grand quand même. Ma grand-mère me disait, il faut que tu manges de la viande pour grandir. C'est pas vrai. Mais soyons réalistes. Il faut essayer de s'en tenir à l'accord de Paris, ne pas augmenter la température de plus de 1,5 degré. Le GIEC a dit que nous devons consommer moins d'énergie. Et nous devons veiller à notre alimentation. Autrement dit, nous devons nous déplacer moins aussi parce que l'aviation a quand même un gros impact sur le climat. Mais moi, ce que j'aime maintenant à propos du fait d'être végétarien, au début, les végétariens n'avaient pas d'aliments très, très bons à leur disposition. Alors qu'aujourd'hui, les végétariens, ce n'est pas des gens un peu blêmes et en mauvaise santé. Non, les végétariens, c'est des gens absolument géniaux et très beaux. très belles, très beaux hommes, très belles femmes, végétariens et ainsi de suite. Donc c'est génial. Et on est en très bonne santé. Mais si on veut survivre sur la planète, c'est vrai qu'il faut manger moins de viande. Mais pour moi, l'argument consiste à dire, mais regardez ce que l'on peut faire au lieu de cela. On peut manger de la viande une fois par semaine, par exemple, et le reste du temps, on explore les autres possibilités culinaires. En Grande-Bretagne, on a notre ministre qui a dit « Je ne suis pas la mieux placée pour dire qu'il ne faut pas manger de beefsteak et de frites. » Cette femme est ministre. Il en va de sa responsabilité de relever les défis. Il en va de sa responsabilité d'être honnête et de dire « Manger de la viande 7 jours par semaine, ce n'est pas bon pour la planète et ça participe au dérèglement climatique. » Donc pour moi, la chose la plus importante, c'est de se poser des questions. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que l'on peut faire au lieu de manger de la viande? Il y a là un champ de possibles incroyable. On peut manger des choses fantastiques en mangeant moins de viande.
Et une dernière question difficile quand même pour poursuivre, parce que dans ce discours de l'écologie, en France par exemple, on stigmatise l'écologie punitive, mais il y a un certain nombre de choses dont il va falloir se passer. On parle de la viande, vous avez parlé des déplacements aussi qu'il va falloir limiter. Est-ce que finalement la décroissance vous paraît être un horizon incontournable dans le projet qui est le vôtre, Bob Hopkins?
For me, it's very hard to imagine how we have an economy that grows all the time.
Comment imaginer une économie qui ne fait que croître et qui pourrait changer les choses de manière bénéfique? Permettez-moi de transformer votre question. Parce que le mot décroissance, c'est quand même assez négatif. C'est comme si on allait avoir moins de choses. Moi, quand j'envisage l'avenir que nous pouvons et allons créer pour réagir au dérèglement climatique, c'est la conception de plus. L'air sera plus propre, l'eau sera plus propre, les aliments seront meilleurs à manger, les transports publics seront plus abordables, il y aura plus de chants d'oiseaux, il y aura plus de relations entre nous, il y aura plus d'enfants qui jouent dans les rues. C'est pas une culture du moins, il faut pas parler de décroissance, il faut moins de choses négatives, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'espace pour créer une économie du plus de relations, plus de convivialité, plus d'échanges, plus de fêtes, plus d'ondes positives. C'est ça qu'il faut travailler. Et moi, quand je donne des conférences, c'est ça que je dis et c'est ça qui stimule les gens. Parce que c'est maintenant qu'il faut agir pour créer un avenir dont on a toujours rêvé. Et les opportunités sont immenses. Et ces opportunités, il faut les saisir dès maintenant.
Merci beaucoup, Rob Hopkins, de nous avoir rendu visite. Votre livre, Le pouvoir d'agir ensemble ici et maintenant, est publié chez Actes Sud. Merci à Xavier Combes qui vous a traduit.